Menina eidetea, pele uiwado achilleos. Déesse, chante la colère, tu sais, la colère du fils de Pélée, oui, d'Achille. Ah, la colère exécrable. Tous les Achéens accablés sous des douleurs incalculables. Toutes ces âmes, de tous ces braves qu'elles balancent dans l'Hadès, ces héros, et eux tous, oh, qu'elles jettent aux chiens.
Pascal Paradou.
Ainsi commence l'Iliade, long poème de 15 693 vers, nommé Hexamètre dactylique, attribué à Homère, le légendaire Homère qui vivait en Grèce aux alentours de 800 avant Jésus-Christ. Ainsi commence surtout la nouvelle traduction que vient d'en faire Emmanuel Lascou, docteur en grec ancien, membre du Centre de recherche en littérature comparée à la Sorbonne, et musicien. Bonjour Emmanuel Lascou.
Bonjour Pascal Paradou.
La musique, c'est essentiel dans cette histoire. Qui traduit, l'helléniste ou le musicien?
Eh bien, ce sont les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre. Ce serait un troisième personnage qui serait à égale distance entre les deux. Et je reprends votre mot traduire, parce qu'en réalité, c'est peut-être plus ce qu'on appellerait une transposition qu'une traduction.
En tout cas, l'oralité est essentielle parce que cette épopée, l'Iliade, était dite avant d'être écrite.
Oui, bien qu'on ne sache pas du tout si l'écriture n'aurait pas servi quand même à monter à un stade du développement de ce poème. Mais l'Iliade, c'est la mémoire ancestrale de l'oralité des Grecs qui a fini couchée par écrit, comme on dit.
C'est 800 avant Jésus-Christ ou bien avant?
Non, si celui qu'on appelle Homère, c'est-à-dire un nom, et ce qu'on appelle les Aèdes et l'époque des Aèdes ont existé réellement, comme d'ailleurs les Grecs le disaient, hein. Hérodote nous disait c'est 400 ans avant moi, traditionnellement on parle de 750 avant Jésus-Christ.
Et quelle est la première forme de l'Iliade? On le sait?
Absolument pas, puisque l'Iliade comme l'Odyssée sont sans doute quand même un grand patchwork de récits, de mutoi, comme disaient les Grecs, qui ont fini par être entraînés dans un même courant, et sans doute avec des interventions d'aèdes géniaux pour les monter ensemble. Voilà.
Aède, c'est quoi? C'est un conteur?
Aoidos, non. Aeido en grec, ça veut dire chanter, vraiment chanter.
Donc un chanteur?
Oui, c'est un chanteur. Sauf que, comme le disait, et je crois que quand vous aviez eu la gentillesse de m'inviter pour l'Odyssée, j'avais dû faire la même citation, comme le disait le grand Rousseau, les Grecs pouvaient chanter en parlant, mais nous, on doit choisir entre chanter ou parler. Donc, chanter en grec, ça veut finalement aussi dire parler en vers, ça veut dire déclamer.
Mais ils avaient un rôle officiel, les aèdes? Ou ce sont juste des chanteurs pour divertir la population,
je dirais,
la noblesse?
Ils avaient un rôle aussi important, y compris sans doute social, politique, et pas simplement artistique, que des griots en Afrique, que des jongleurs au Moyen-Âge. Le conteur est essentiel à une société, d'autant plus si cette société est sans écriture.
Alors, plusieurs siècles nous séparent de l'Iliade et l'Odyssée, Emmanuel Lascou. Les dieux ont disparu, les guerres ne sont pas les mêmes, les très belles femmes ne sont pas reines forcément, mais plutôt mannequins ou instagrammeuses. Pourquoi lire Homère aujourd'hui?
Pourquoi lire Homère aujourd'hui? Parce qu'en réalité, ça n'est pas nous qui lisons Homère aujourd'hui, c'est toujours Homère qui s'impose à nous et à toutes les époques. Chaque époque voit revenir Homère. Et je vous accorde les distinctions que vous avez faites, mais en traduisant cette Iliade dans laquelle je baigne depuis tellement longtemps en grec, je me suis rendu compte à quel point, je dirais aussi, malheureusement, c'est nous, et c'est nous dans le pire sens du terme, c'est-à-dire peu d'avenir, la régression des guerres partout, et des gens qui savent que ça ne sert à rien.
En deux mots, S'il faut résumer l'Iliade, c'est quoi? C'est la guerre de Troie, quand Paris le Troyen enlève Hélène, la femme du roi de Sparte, Ménélas, qui, pour se venger, va lever une armée contre sa rivale et assiéger la ville de Troie.
Ça, c'est le mythe que vous avez très bien résumé. Mais Homère n'est justement pas la mythologie. L'Iliade, c'est un scénario incroyable. C'est une toute petite partie de ce mythe qui concerne 50 jours environ, la 10e année de la guerre que les Achéens sont devant Troie. Et l'Iliade ne raconte pas la guerre de Troie, ni la mort d'Achille, ni le cheval de Troie, ni l'enlèvement d'Hélène. L'Iliade raconte la colère d'Achille et la menace de guerre civile à l'intérieur du camp troyen entre Achille et le roi des rois, Agamemnon, pour une histoire de femme aussi. Mais c'est surtout l'honneur d'Achille qui a été bafoué, puisqu'Agamemnon va lui enlever sa captive.
Alors, de l'Odyssée, vous disiez à ce micro, puisque vous me rappeliez qu'on s'était vu pour cette traduction de l'Odyssée, que c'est la matrice d'un sentiment très contemporain, la nostalgie, c'est-à-dire la souffrance de celui qui veut rentrer. De quoi l'Iliade est la matrice ?
Eh bien, et ça, je dirais, ça m'a un peu sauté aux yeux et aux oreilles il n'y a pas si longtemps que ça. L'Iliade, c'est aussi un problème de retour. Mais ce n'est pas le retour chez soi. Malheureusement, c'est le retour, un peu comme dans tous les grands films de guerre, je pense à Full Metal Jacket, etc., sur le Vietnam. C'est le retour des gars qui n'ont chez eux qu'une permission et qui savent que de toute façon, il va falloir y revenir, c'est-à-dire à la guerre.
Donc c'est un livre sur la guerre.
L'Iliade, pour le dire aussi carrément si vous voulez, pour moi, parce que quand on traduit, on impose aussi, on propose une lecture, forcément. On a une vision d'Homère. Je n'ai pas la même vision d'Homère que d'autres lecteurs ou traducteurs. L'Iliade, c'est vraiment une certaine forme de la beauté du désespoir. Voilà. Donc ça, on connaît. Le désespoir, peut-être on connaît aujourd'hui beaucoup. Mais on ne sait pas que Homère est aussi un antidote à cela, non pas parce qu'il nous proposerait des solutions de secours, des issues de secours, mais parce qu'il en fait œuvre de beauté. C'est ça l'Iliade.
Emmanuel Lascoux, vous allez nous faire entendre la musicalité de l'Iliade, mais auparavant, en avant-première sur RFI, Armand Méliès, son album sortira au mois de février.
Fièrement jaillit du cœur, l'écume à l'infini et la baie qui scintille, les yeux embués d'or, voir les étoiles pleuvoir, la mémoire lézardée de sommeil et de rire. Et la vie nous effleure, et la vie nous effleure, une humeur sous la lune, et la vie prend racine, et la vie nous effleure, et la vie nous effleure, une courbe sous la lune. La vie s'est enfuie. La vie nous effleure. une humeur sous la lune, et la vie prend racine.
Armand Méliès sur RFI avec cette belle de nuit en attendant son prochain album. Emmanuel Lascou est aujourd'hui notre invité pour sa nouvelle version de l'Iliade de Homère, après nous avoir proposé une version de l'Odyssée il y a quelques années. Alors ce sont des épopées distinctes qui peuvent se lire tout à fait séparément, mais il y a quand même un ordre chronologique. On dit l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi avoir commencé par l'Odyssée et finalement terminé avec l'Iliade?
Alors oui, on dit l'Iliade et l'Odyssée parce que l'histoire racontée part de la guerre de Troie. Il faut d'abord faire tomber la ville de Troie, ensuite les Achéens rentrent, et parmi les Achéens qui rentrent, il y a Ulysse qui va rentrer chez lui. Donc c'était l'épopée des Odyssées, c'était les retours. Pourquoi j'ai remonté le trajet à l'envers? Parce qu'en réalité, non seulement moi j'ai passé ma vie dans Homère, mais en plus les spécialistes d'Homère se répartissent, disons, entre spécialistes de l'Iliade et spécialistes de l'Odyssée. Or moi, mon truc, c'était beaucoup plus l'Iliade. Donc j'ai commencé par l'Odyssée parce que paradoxalement, je la connaissais moins. Et puis, il y avait eu moins d'Odyssées traduites en français récemment, dans les dernières années, depuis 15 ans. Et autre chose, l'Iliade, pour moi, c'est la face nord. Ça me faisait peur. C'est le plus dur, peut-être, à traduire. Parce qu'il n'y a pas de concession dans l'Iliade, comme je vous le disais tout à l'heure. L'Iliade, c'est quand même un poème de la mort et de l'absence d'issue, malgré tout. Donc, c'est impressionnant. Voilà.
Presque 16 000 vers répartis en 24 chants. 24 chants, ce chiffre a un sens?
Oui, parce que ce sont les 24 lettres de l'alphabet grec. Les Grecs ont pris l'habitude de nommer chaque chant de l'Iliade et l'Odyssée par une lettre de leur alphabet.
Avec des dieux, des héros, mais qui ne sont pas du tout exaltés par Homère, bien au contraire. Vous dites dans l'introduction à cette version que Homère fait le constat d'une faiblesse généralisée avec cette conclusion « mieux vaut mourir ou ne pas naître ».
Ah, ça, c'est les Grecs qui le disaient. Et Hélène, qui est censée être la cause de tout, à chaque fois qu'elle intervient, la belle Hélène dans l'Iliade, c'est pour se lamenter sur elle-même et surtout c'est pour s'injurier et pour dire qu'elle est vraiment la cause de tout cela. Et finalement, les autres ne l'insultent pas, même les Troyens qui perdront tout à cause d'elle, ils la plaignent plutôt parce qu'ils savent que ce sont les dieux les responsables. Donc, chez Homère, on accuse les dieux s'accusent entre eux et les dieux, évidemment, sont... La seule différence entre les dieux et les hommes, c'est que les dieux sont immortels. Mais ils ont les mêmes défauts que les hommes multipliés par mille.
Mais ça n'a pas l'air génial d'être immortel.
Ah non, et c'est pour ça qu'ils ont créé les hommes, parce qu'il leur faut passer leur temps devant des séries, comme aujourd'hui, on passe notre temps devant des séries. Et la guerre de Troie, c'est une grande série, et ils sont accros à la série. Simplement, c'est une série dans laquelle ils interviennent et où ils se prennent eux-mêmes des coups. C'est ça qui est extraordinaire. La déesse Aphrodite au chant 5, elle est blessée par Diomède. On voit même couler son sang divin qui est transparent. Autrement dit, les dieux ont besoin des hommes, mais ils sont aussi complètement victimes des hommes.
Mais c'est parce que c'est une série, Emmanuel Lascou, que vous écrivez l'Odyssée et l'Iliade au présent, entièrement au présent, alors que ce texte a 30 siècles.
Alors, c'est vrai que dans le texte grec, le texte est raconté comme un récit au passé. Simplement, quand on fait du grec, on sait que les temps du passé n'ont pas la même valeur que nous pour le passé. En quelque sorte, en grec, le passé ne sonne pas passé. D'autre part, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est une transposition immédiatement perceptible, caméra sur l'épaule, on est sur le terrain de la guerre de Troie, est perceptible dans une édition, et là je ne remercierai jamais assez POL et mon éditeur Frédéric Boyer, dans une édition qui n'est pas une édition savante, qui est une édition de littérature contemporaine. Homère, c'est toujours ce qui est neuf, ce qu'on reprend, comme si ça arrivait en ce moment.
Et vous dites, c'est le temps du conte, du cirque, des cartoons, du correspondant de guerre, voire du commentateur sportif. Est-ce que vous poussez pas un peu?
Bah écoutez... Si vous lisez le catalogue des vaisseaux du champ 2, c'est une sorte de grand défilé commenté à la télé. J'ai même parlé, mais là c'est pour les ancêtres que nous sommes, de Léon Zitrone, l'aube de la télévision. Et puis le champ 23 de l'Iliade, c'est les fameux jeux en l'honneur de la mort de Patrocle. Et là, il y a une très célèbre course de chars qui ressemble déjà à Bénure ou à un péplum, mais qui est commentée en direct par la Hède. Donc c'est une sorte de retransmission presque télévisuelle ou en tout cas auditive. C'est une retransmission audio de course de chars avec tous les accidents et les batailles entre supporters.
J'ai du mal à vous croire.
Ah, mais je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver, si vous voulez bien. Par un petit bout. Nous sommes dans la course de chars. Le fils de Tidée, Diomède, vient de se faire piquer le fouet par Apollon, parce que les dieux interviennent en plus dans la course. Hein. Ça ressemble aussi à, vous savez, ce fameux dessin animé quand moi j'étais petit, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait les fous du volant. C'est ça, c'est un peu les fous. Je l'ai fait un peu fou du volant. Il va dépasser le premier, allez! Il va au moins finir ex aequo, je vous parie. Ben non, le fils de Tidée qui se prend la colère de Phoibos Apollon, zip, qui lui fait glisser le fouet brillant des mains, vous avez vu? Oh, il en chiale, il en rage forcément à voir les juments de l'autre détalés de plus belle, bon sang. Et les siens, va, c'est foutu pour lui. Plus d'aiguillon, clop, clop, au petit trot. Ah, mais si vous croyez que ça vient d'échapper à Athéna, le coup fourré d'Apollon, au fils de Tidée, que non! La voilà qui se précipite sur son berger d'homme, voum, pour lui rendre son fouet et un bon coup de jus au canasson.
Ça, c'est du Homère.
Bah, c'est du Homère version Lascaux.
Et ce, malgré la forme très contraignante qu'est le fameux hexamètre que j'évoquais au tout début de cette émission, que vous respectez pas vraiment, contrairement à ce que d'autres font ou ont voulu faire. Je vous propose d'écouter Philippe Brunet, qui lui aussi a traduit les deux épopées.
L'hexamètre, en fait, il faut l'entendre, c'est une pulsation, si on dit l'Iliade. Men in haide te apelle, uiado achilleus. Donc il y a six mesures. Je peux. Men in haide te apelle, uiado achilleus. Et cette battue à six temps forts, disons six mesures à deux temps, est constitutive de la forme épique. On se souvient en commençant sur un temps fort, et on déroule ensuite les anneaux de ces six cellules, et ça dure pendant 16 000 vers dans l'Iliade. Et c'est la grande tentative, le rêve de la Renaissance, c'était de reproduire ça dans les langues modernes. Et la tentative a été faite, parfois même réussie, même s'il n'en reste pas grand-chose. Un certain Mousset avait traduit en français. Et puis d'autres ont fait des tentatives de vers mesurés à l'antique, comme on les a appelés. En tout cas, si on veut lire des hexamètres, il faut le faire dans le grec ancien, avec un professeur qui vous aide un petit peu à scander, ou en latin, chez les poètes épiques, dans les traductions qui ont fait des hexamètres, comme dans toutes les langues d'Europe, quasiment. Et puis, c'est vrai, en français, il y a Markovitch qui a traduit Catulle, et puis il y a ma traduction de l'Iliade et celle d'Hésiode aussi.
Emmanuel Lescoux, vous inscrivez en faux par rapport à ce que dit Philippe Brunet et à ce qu'il a fait. Vous ne faites pas de calque, vous.
Non, je ne m'inscris pas du tout en faux, d'autant que la traduction de Philippe Brunet, je l'ai moi-même beaucoup pratiquée, performée avec lui, et j'ai beaucoup appris aussi auprès de Philippe. C'est simplement que Philippe a fait cette traduction en hexamètre, d'autres grands traducteurs ont choisi d'autres parties. Encore une fois, ce que j'ai fait n'est pas à proprement parler une traduction. J'ai essayé de donner à un public français, on va dire de 7 à 77 ans et plus, une sorte de ce qu'on appelle une audiodescription. Moi, j'ai pris au pied de la lettre ce que disaient les Grecs. Homère était aveugle. Imaginons ce que c'est que d'être aveugle et d'aller au cinéma. Tous les bruitages, toute l'oralité doit passer par la voix. Et donc, je me suis effectivement affranchi d'un certain nombre de règles de traduction, que par ailleurs, j'impose à mes étudiants quand je leur fais faire de la version. Voilà.
Mais de quoi est faite la langue d'Homère? Elle est faite de toutes ces onomatopées, de toutes ces familiarités, de tout cet argot que vous glissez dans l'Iliade?
Alors, chacun essaye, vous savez ce qu'on dit, quand on traduit, on perd 80% de l'original. Parce que le son d'une langue ne se transpose pas dans le son d'une autre langue. Chacun, tous les grands traducteurs l'ont fait, depuis la Renaissance bien sûr, chacun essaye de rendre l'obsession des Grecs, ce qu'ils appelaient la mimesis, l'obsession des Grecs, pour les jeux phoniques. Il y en a plein chez Homère. D'autre part, la langue d'Homère, c'est une langue qui n'est pas une langue élevée tout le temps, c'est pas tout le temps du racine. Ça peut être aussi très souvent, du langage que moi je fais tomber très bas jusqu'à de la bande-son un peu Tonton Flingueur, un peu Michel Audiard première manière. Ou alors, il y a des passages très comiques qui là sont dans la bouffonnerie. Il y a des insultes. Donc, si vous voulez, moi je me suis un peu affranchi de toutes mes règles d'homérisant et d'helléniste en disant tu vas oublier un peu ça pour essayer de plonger l'auditeur dans un univers sonore qui serait quand même un univers avec ma culture, disons, et une partie de notre culture. Simplement, en tant qu'helléniste, je sais qu'il y a de petits mots comme des particules, derrière lesquels je me cache pour mettre des bruits, les particules sont intraduisibles, ou des interventions, j'ai créé une espèce de voix off. Parce que, et ça j'y tiens beaucoup, dans une littérature orale, quand il y a quelqu'un, c'est comme au guignol, il y a le marionnettiste qui fait le guignol, mais le public réagit. Nous n'avons plus les réactions du public. L'Iliade c'était, et l'Odyssée, c'était un spectacle d'interaction. C'est comme si j'avais réintroduit le public et ses interactions à l'intérieur du texte perdu.
Donc il faut lire cette version à haute voix.
Oui, mais on peut la lire possible. Des yeux. Bien sûr, on en fait un peu ce qu'on en veut. Je remarque quand même, et vous l'avez vu, que je continue à numéroter ce que j'appelle des vers. Je n'ai pas écrit en prose. Il y a des rythmes dans ma traduction, mais il y a une polyrythmie. Je change. Je suis plutôt sur de l'octosyllabe, mais il y a des interventions et je respecte les effets de cassure de la syntaxe. Et moi-même, je rajoute, à ma manière, des calembours et des jeux de mots pour essayer de faire feu de tout bois.
Alors à vous lire, Emmanuel Lascoux, on entend ou on imagine entendre Homère, mais qui est-il ? Il y a 7 ans maintenant, l'helléniste Pierre Judet de Lacombe publiait une biographie, rien que ça, de Homère.
L'Iliade et l'Odyssée ne nomment jamais leur auteur, ne disent rien sur sa naissance, sa famille. Mais bon, après, les anciens n'ont pas mis en doute l'existence d'Homère. Ça a commencé à la Renaissance. Le déclic, ça a été que, parce que je lisais un livre de Claude Lévi-Strauss sur les masques, je me suis dit, mais tout ça, mais oui, c'est du mythe. Du mythe, c'est-à-dire c'est une machine sémantique qui produit du sens avec des versions contradictoires. Donc il faut prendre ça comme un mythe. Et donc, parce qu'on dit ou bien qu'il est né d'un dieu ou d'un violeur, enfin parfois c'est le même, ou bien il est né dans telle ville ou telle ville, il a été aveugle de naissance ou pas du tout, il n'a jamais été aveugle ou il est devenu là. Il y a toute une série de variantes justement. Et alors et l'autre idée, ça a été de me dire, mais si c'est un mythe au sens de Lévi-Strauss, c'est là qu'il faut relire beaucoup, eh bien, c'est le mythe du poète. Eh bien, ce mythe, on a toutes les chances de le trouver dans Homère lui-même. Et effectivement, c'est le mythe d'Héphaïstos, qui est comme lui, mutilé, errant, qui n'arrête pas de tomber du ciel, qui perd, cocufié, etc. Et donc, le loser, quoi. Ouais. Et c'est un peu comme est aussi Homère, mais qui crée des merveilles.
Emmanuel Lascoux, Homère est un mythe.
Alors là, Pierre Judet de Lacombe, qui était aussi mon maître, auprès de qui j'ai beaucoup appris, Pierre Judet de Lacombe reprend une triple définition qu'il y a dans les premiers écrits sur Homère du jeune Nietzsche, quand Nietzsche était professeur de grec à Bâle avant d'être philosophe. Nietzsche a dit « Homère, en fait, c'est un concept, peut-être ». C'est sans doute un mythe. Et comme le dit aussi, par ailleurs, Barbara Cassin, c'est un jugement esthétique. Voilà, je pense que Nietzsche avait dessiné déjà ces trois perspectives. Évidemment, on est un peu frustré quand nous, les modernes, on attend un bonhomme en chair et en os, qu'on appelle Monsieur Homère, si possible avec une adresse et une date de naissance et de mort, à qui on peut s'en prendre. Et on n'en aura jamais.
Mais c'est quoi un jugement esthétique ?
Alors, quand Nietzsche dit « Homère est un jugement esthétique », ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est pas innocent. C'est jamais innocent de repartir d'Homère. Parce qu'Homère, c'est une vision du monde. C'est une œuvre, bien sûr. Mais, comme le savait très bien Nietzsche, quand Nietzsche dit « esthétique », chez lui, ça voudra aussi dire « éthique ». Il y a de telles implications dans le monde homérique que d'ailleurs les Grecs auront du mal à avaler. Vous savez à quel point, et j'ai essayé, si vous avez vu ça, d'imaginer une sorte de dialogue entre Platon et Homère dans mon introduction, parce que Platon n'aura de cesse qu'il passe son temps à citer Homère, mais en même temps, très poliment, il le reconduit en dehors de la cité idéale parce qu'il dit « ça suffit les horreurs qu'Homère raconte ». Donc Homère, c'est un jugement esthétique parce que c'est aussi un jugement éthique. Homère, c'est une manière de concevoir la finitude de la vie, la beauté et d'une certaine manière, ce que Nietzsche appellera plus tard la transmutation de toutes les valeurs.
Donc il y a une évidence à rendre Homère contemporain, comme vous le faites dans cette version, Emmanuel Lascoux, et ça valide finalement toutes les versions possibles d'Homère.
Alors je ne sais pas
parce qu'il y en a eu beaucoup.
Mais bien sûr, de toute façon, vous le savez, cette fameuse Homère est toujours le moteur de l'éternelle querelle entre les anciens et les modernes. Je ne sais pas si je veux rendre Homère contemporain. Je veux simplement dire à mes contemporains qu'ils sont beaucoup plus anciens qu'ils ne croient. C'est plutôt le trajet inverse. C'est montrer que nous sommes anciens et non pas qu'Homère serait jeune. J'espère ne pas avoir fait œuvre démagogique de ce point de vue-là.
Est-ce que le nombre de versions que l'on connaît en français est équivalent dans les autres langues ?
Il y a beaucoup de traductions d'Homère, puisque les grands peuples philologues, évidemment, il y a des Homères italiens formidables, des Homères russes, des Homères allemands. Tout l'ancien monde s'est emparé d'Homère hein, depuis qu'on a retrouvé des manuscrits originaux. On n'avait aucune version traduite d'Homère au Moyen-Âge, par exemple. Il a fallu attendre que les Byzantins viennent avec Homère en grec dans leur valise. Oui, il y a énormément d'Homère un peu partout. Alors, je ne suis pas spécialiste de tous les Homères existants sur la planète et toutes les versions. Mais il est évident que chacun veut s'en emparer. Et à toute époque.
Alors, on évoquait Homère comme un mythe. Est-ce que pour vous, Emmanuel Lascoux, c'est un modèle ?
Pour moi, personnellement, avec mon type de folie que je partage avec quelques homérisants, c'est pas que c'est un modèle, c'est mon lieu d'existence. C'est tout. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Homère, c'est un grand appartement à deux pièces, donc vous pouvez changer de pièce. Soit vous vivez dans la pièce Iliade, soit vous vivez dans la pièce Odyssée. Au bout d'un moment d'ailleurs, vous vous demandez comment les pièces communiquent. Et Homère, c'est un monde en soi. Et c'est, oui, moi je peux quand même dire pour moi que c'est un modèle dans le sens où je contresigne les visions de la vie humaine qu'il y a chez Homère.
Je vous pose cette question parce qu'en parallèle de cette traduction-version, vous publiez un court texte, Poids des pianos, sur la disparition de votre mère. Et c'est un texte qui est à la fois très sonore et silencieux, lyrique et opaque, un récit assez personnel que vous nommez, d'un mot qui n'existe pas pour qualifier les livres, d'habitude, constat. On dit récit, on dit roman, constat.
Alors, effectivement, ce petit livre est sorti à cause de, je dirais, l'agenda de la vie et de la mort. Il est sorti entre l'Iliade, et il s'est glissé entre l'Odyssée et l'Iliade. Constat parce que c'est un constat, la mort est un accident, effectivement, le seul grand accident de l'existence. Et quand il y a un accident, on fait un constat de décès et on essaye aussi, et c'est ce que j'ai essayé de faire, un constat amiable. Et en latin, constat, c'est un très beau mot qui veut dire ça se produit, ça consiste. Constare veut dire c'est fait de cela. Donc effectivement, dans ce livre, qui est aussi un peu homérique, mais où je croise aussi beaucoup, parce qu'avec ma mère, je partageais Homère, j'ai eu la chance de partager Homère avec ma mère et mon père. Mais avec ma mère, c'était la musique. Et donc je peux dire que je devais faire ce tombeau.
En pensant à Homère et en oui. pensant à elle.
Oui, bien sûr.
Elle a joué un rôle essentiel dans votre passion pour le grec et la musique ?
Oui, bien sûr. J'ai toujours baigné dans ces deux choses et j'ai toujours un peu hésité dans mon existence aussi entre ces deux choses. Et je passe mes journées à l'une ou à l'autre. Et ma mère se mouvait là-dedans aussi, à sa manière, bien qu'elle fût plus moderne dans ses choix littéraires, elle... Elle était éditrice de Georges Sand, elle avait une passion folle pour Stendhal, Balzac, Rossini, ces gens-là.
Merci Emmanuel Lascoux. Votre nouvelle traduction, j'utilise ce mot toujours, de l'Iliade est donc à lire chez POL, comme l'était l'Odyssée et comme l'est ce récit, ce constat, Poids des pianos. Merci beaucoup de vive voix à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et bien sûr, on se retrouve très vite.